Bon midi, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à l'émission On en jase avec Jeff Fortin, Pascal CV. Hier, on avait une émission très actualité locale. Aujourd'hui, on va être très dans le provincial parce que c'était le discours de Christine Fréchette hier. C'est sa première période de questions ce matin. Et boboy, il a ramassé Paul Saint-Pierre Plamondon. La guerre est partie entre la CAQ et le PQ. J'aime ça!
Débat politique à venir et débat politique fort intéressant même à venir.
Exactement. Donc, évidemment, caucus avec Antonine Iaccarini. Lambert Drainville, qui était malade la semaine dernière, sera de retour avec nous. L'année Dufour va venir nous parler d'économie parce que grosse annonce chez Bombardier cet après-midi au niveau d'aviation. Et on va avoir Étienne-Alexandre Beauregard en studio qui était là hier à l'Assemblée nationale pour assister au discours de Christine Fréchette. Il connaît bien François Legault, il a rédigé ses discours, alors il va nous faire le petit comparatif entre la façon de faire Fréchette versus la façon de faire Legault. Ça va être très intéressant.
J'adore ça.
Ouais, exactement. Donc, puis on va terminer l'émission avec Marie Langlois, PDG de la SDC Montcalm. Hey, imagine-toi donc, hier on a dit le tunnel, on commence ça! À Québec pour le tramway. Mais là, les commerçants font « OK, mais attends une minute, ça va être quoi les travaux? Qu'est-ce qui se passe? Ma rue va-tu être bloquée? » Ils ont appris ça comme tout le monde à TV hier. Fait qu'on va parler de ça. Mais avant de commencer, Pascal Cévé, il y a de la circulation.
Oui, je voudrais juste dire que sur Laurentienne Sud, à la hauteur boulevard Le Bourgneuf, la voie de droite est partiellement entravée parce qu'il y a un accident. Alors, ça fait en sorte que ça ralentit le secteur.
418-971-1021 pour communiquer avec nous. Vous le faites très bien les midis. On veut avoir votre opinion. Donc, lâchez-vous lousse comme à l'habitude. BLVD.fm, c'est notre web radio. C'est également la place pour aller écouter nos meilleurs moments. BLVD 102.1, c'est notre application sur App Store et Google Play Store. Et également, avec les haut-parleurs intelligents, vous êtes écoutés BLVD 102.1, puis ça apparaît dans nos oreilles.
Je m'étais noté la notification de circulation.
Oui.
Puis en le disant, je me voyons, c'est en arrière de nous.
Ben, c'est ça, un camion de pompiers.
Oui, là, on voit que les services d'urgence, ils sont. Donc, on est à deux camions de pompiers, on est à deux, trois policiers. Donc, c'est vraiment un ralenti. Je pense qu'il faut faire attention. On voit mal quand on descend à cette hauteur-là.
Exactement. Puis la température n'est pas clémente, là, la météo à l'heure actuelle. C'est 8 degrés avec de la pluie. Demain, ça sera 10 degrés, 60 % de possibilité d'averse. 13 degrés et 14 degrés à venir pour vendredi et samedi avec alternance de soleil et nuages. Hey, moi, tu sais, Pascal, la fin de semaine, quand je me lève, je fais mon petit café puis je dis toujours à mon haut-parleur intelligent BLVD. Écoutez, BLVD 102.1. C'est la voix de la personne qu'on va aller rejoindre au téléphone qui apparaît toujours avec la petite musique rock and chill. Audrey Pinchot, comment vas-tu?
Hey, salut, ça va super bien, vous autres?
Ça va bien. Audrey, t'es en direct du Grand McDonald's. Là, il est midi 3, il y a plein de monde dans leur char. Ils se disent, qu'est-ce que je mangerais bien à midi? Ben, c'est un Big Mac pour la bonne cause.
Hey, écoute, un Big Mac, mais pas juste ça, Jeff. Avant, il y a une époque où c'était seulement un Big Mac. Mais là, peu importe ce que vous commandez, frites, junior au poulet, breuvage, il y a des sous sur votre facture qui s'en vont directement à la maison Ronald McDonald. Il y en a, évidemment, aux familles là, d'enfants malades, entre autres. Puis, je peux pas être plus en direct. Je suis pile dans la cuisine en ce moment-là. Je suis littéralement à côté de Daisy, Alexandra, qui sont là, Audrey, qui travaille super fort, Gab Marino de la station Weekend 89, cette station de fer. Il est aux frites, il roule ça. J'en ai fait une coupe de McDonald's, Jeff, là. Puis pour vrai, j'ai jamais vu une équipe efficace de même.
C'est toi, tu fais quoi? Tu dis que t'es en cuisine, fait que tu mets la mayo, tu montes les burgers?
Non. Ben là, je vous parle en direct des derrière de la cuisine. Je me suis comme tassée, mais moi, je suis vraiment au service au volant en ce moment. Fait que je préfère les commandes, je les donne. Vous allez me voir la
face. Oui, puis là, t'es à quel McDo exactement? Parce que là, il va y avoir plein d'auditeurs qui vont dire « Faut absolument que je me fasse donner mon McDo par Audrey Pinchot. »
À celui sur le Bourgneuf, le nouveau qui est à la place de l'ancien Krispy Kreme, carrément en face des galeries de la capitale. Il est accessible plus que jamais. Là.
Mais hein.
Donc, vous venez nous voir, l'équipe est en place. Puis, c'est toute la journée le Grand McDo. Nous autres, on est en place jusqu'à 13h. C'est vraiment toute la journée, vous pouvez commander. Là, puis ça rentre dans tout ce qui est Grand McDo.
Moi, tu sais-tu quoi? J'ai décidé de faire un 2-pour-1. À matin, j'ai déjeuné avec un McMuffin bacon. Puis à soir, je vais souper avec un Big Mac après l'entraînement.
C'est bon, ça. Ben, moi, dès que je sors d'ici, je me pogne un gros dîner parce que je vais te dire qu'avoir avoir le nez dans la poutine, puis dans les juniors, puis dans les élus, on dirait, là.
Audrey Pinchot, merci infiniment pour ta contribution pour le Grand McDo. On le rappelle, hein, c'est des familles qui proviennent de l'extérieur, que les enfants sont atteints d'une maladie, souvent d'un cancer. Ben, au lieu de payer 200$ d'hôtel par soir, sont hébergés dans le manoir Ronald McDonald.
On connaît tout quelqu'un, Jeff, qui a eu besoin de la maison du manoir Ronald McDonald, puis je pense pas que c'est un sacrifice de venir manger un petit McDo aujourd'hui pour pouvoir donner des sous, on va t'entendre.
Oh non, pantoute, pantoute, c'est pas du tout un sacrifice, au contraire, c'est un très, très, très beau geste. Audrey, on t'entend dans le retour avec Denis et Véro.
Yes.
Excellent.
On vous attend, venez nous voir sur le McDo Le Bourgneuf.
Cool, salut Audrey, merci de nous avoir parlé.
Salut.
Audrey Pinchot, si vous voulez vous faire livrer votre Big Mac ou votre 6-10 McCroquette, ben là, au service à l'auto du
c'est
nouveau McDo Le Bourgneuf.
C'est tellement trippant pour vrai. Les auditeurs, mettons, qui s'en vont la voir, ils ont du fun. Audrey,
ben
elle
oui.
a du fun. Je veux dire, on fait des simulations avec l'intelligence artificielle en jouant à des affaires de casse-croûte.
Ouais.
Là, elle
c'est
fait
ça.
Pour une bonne cause.
Là, elle est là pour une bonne cause. Honnêtement, allez-y. Allez encourager les manoirs Ronald McDonald. C'est tellement important pour les familles, justement, qui sont éprouvées par la maladie de leur enfant. En manchette, Pascal Cévin, avant qu'on passe au caucus.
Bien, grosse nouvelle pour Québec, parce que là, officiellement, on met le gaz au fond pour l'accélération des travaux du tramway. Et c'est le ministre Benoît Charrette, le ministre des Transports et de la Mobilité durable, qui a dit « On ferme la porte à toute éventualité de stopper le projet de tramway à Québec. On va de l'avant. C'est l'approbation finale du chantier. On attend ça pour l'an prochain. Mais c'est juste une formalité. On ne recule plus. » On avance. Ça a été une confirmation de fait. Donc, il faut qu'on en parle aujourd'hui assurément. Je pense que là, pour la Ville de Québec, c'en est pour beaucoup. Puis quand on parle des travaux, bien, les travaux d'excavation en prévision du tunnel pour faire passer le tramway sous la colline parlementaire, ça va débuter dans les prochaines semaines, plutôt qu'en 2027. Et ça a surpris bien des gens. Ça a aussi été annoncé hier par le ministère des Transports, montant de 55 millions de dollars qui est prévu dans l'enveloppe de 7,6 milliards de dollars. C'est donc autorisé dès maintenant par Québec. Et selon le gouvernement Fréchette, c'est un changement de plan dans l'échéancier qui va permettre de livrer au meilleur coût, dans les meilleurs délais, et ça dans un souci de gestion optimale des fonds publics. On n'est pas sans surprise que pour respect citoyen, ça fait aucun sens, cette annonce.
Oui, c'est clair. On va entendre Stéphane Lachan justement hier en conférence de presse.
Notre demande à tout prochain gouvernement, à tout aspirant au pouvoir provincial, on vous invite à stopper ce projet. On ne construit pas un projet de cette ampleur financé par des contribuables sans le consentement clair de celles et de ceux qui paient.
Ça faisait suite là, au sondage qu'on a parlé hier midi, là, justement, d'un taux de un taux en défaveur du projet là, très élevé. Là.
C'est-à-dire,
ouais, entre 60% et 76%, dépendamment de la fourchette de prix.
Oui. L'Autorité des marchés publics a ouvert une enquête sur le processus d'attribution du contrat lié au dossier santé numérique. C'est l'opposition officielle via Moncef Déragie qui a évoqué que de possibles irrégularités dans les appels d'offres ayant mené au choix de l'entreprise américaine Epic Systems a existé. Donc, on a mentionné qu'on on a à avoir dans tout ça et certainement qu'il n'y avait que deux fournisseurs dans le processus. On croit sincèrement qu'il fallait au moins trois fournisseurs pour la suite. Le DSN s'est estimé entre 1,5 et 3 milliards de dollars, je vous rappelle. C'est pour regrouper des centaines de systèmes informatiques pour centraliser les données médicales des patients. Et ça fait la une sur un autre pan aussi aujourd'hui. Le fait qu'on continue de dire qu'on n'est pas prêt. Cette fois-ci, c'est quelqu'un qui travaille directement dans le dossier santé numérique, un responsable qui est sorti et qui a communiqué avec Radio-Canada sous la plume de Thomas Gerbet ce matin. Et ce qu'il dit, c'est qu'il y a beaucoup de failles de cybersécurité et ça ne sera pas comblé avant le lancement du dossier le 9 mai prochain. Il faut reculer. Beaucoup ont pas mal pris la parole dans les médias dernièrement, mais là, c'est encore quelqu'un à l'intérieur du dossier qui s'est permis de le commenter.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Antonin Iaccarini qui est avec nous, comme à l'habitude, du lundi au jeudi de midi à 12h30 dans Le Caucus sur les ondes de Boulevard 102.1. Anto, comment vas-tu?
Ça va super bien. Bon mercredi à vous.
Hey, bon mercredi. Anto, avant de passer au discours de Christine Fréchette, je veux te parler de deux choses que, justement, Pascal vient de parler dans ses nouvelles. La première chose, Stéphane Lachance, qui commande un sondage Palace hier, 1047 répondants dans la ville de Québec. Bon, le taux d'approbation pour le tramway n'est pas à son meilleur. Là. Il est à 36%, à son meilleur à 7,6 milliards de dollars. Mais là, le gouvernement décide d'avancer. La ville décide d'avancer. Stéphane Lachance sort pour dire « ça n'a pas d'allure, il faut écouter un contribuable, on devrait arrêter ce projet-là ». Je vais peut-être être à l'encontre de plusieurs de nos auditeurs et auditrices dans mon envolée éditoriale, mais là, on peut-tu le réaliser, le mot du projet-là? On a élu Bruno Marchand comme maire de Québec. La CAQ est pour le projet, puis c'est eux autres qui dirigent. Puis on n'a pas de projet depuis 8 ans dans la Capitale-Nationale. On peut-tu juste dire, OK, c'est beau, là, on arrête la discussion, c'est fait, c'est parti, c'est sur les rails, puis on va vivre avec?
Ben, ton message est lancé.
Hein? As-tu de la
voilà,
ça?
Ton éditorial est fait.
Qu'on surveille les coûts, qu'on surveille si ça se passe bien dans les travaux. D'ailleurs, on va parler avec Marie Langlois tout à l'heure là-dessus, parce que je pense que ça a été un point raté de la ville et du gouvernement hier de dire « C'est bon, on fait le tunnel, mais les commerçants l'apprennent dans les médias. » Donc, qu'on fasse les communications sur le sens du monde, qu'on fasse les travaux sur le sens du monde, qu'on le fasse au meilleur coût possible, mais là, qu'on arrête de remettre en question le projet tout le temps. Je commence à être écœureux, là.
C'est écœuré d'entendre parler, là. On n'a pas fini d'en entendre parler, mais effectivement, ton message que tu lances aujourd'hui, c'est avançons. C'est
avançons, ça? Exactement. Avançons en surveillant pour être certain que ça se passe dans les meilleurs coups possibles et de la meilleure façon possible pour nos citoyens et nos commerçants. Marois Risky, ce matin, sur nos ondes, dans Marceau le matin, a dit ceci lorsque je lui ai demandé « C'est-tu un go ou un non-go pour DSN? »
Moi, en ce moment, je vais de l'avant pour la raison suivante. Si on n'y va pas, c'est qu'on n'ira pas.
Ben, okay, c'est comme le tramway, ça. Là, à un moment donné, il faut y aller là, avec le dossier santé numérique. Là, honnêtement, là-dessus, là, vous avez été plusieurs à me convaincre. Là, il y a eu Emmanuel Latraverse qui te remplaçait. Là, il y a eu toi. Il y a eu Christine Fréchette. Là, il y a Marois Risky. Il y a eu Sonia Bélanger, que j'ai écouté aussi en entrevue. Fait que là, vous êtes 5 femmes. Normalement, les femmes, vous êtes hésitantes. Là, je ne veux pas prendre les paroles de Bernard Drinville.
Réfléchie. intelligente.
Bravo, oui, Antonine.
Bon, c'est beau. Moi, je faisais mon Bernard, là. Laisse-moi donc caricaturer mon Bernard. Les femmes, vous êtes hésitantes. Non, c'est pas vrai. Non, exactement tous les beaux qualificatifs que tu viens de dire. Mais là, vous êtes 5 à me dire « Hey, Fortin, toi qui es le cow-boy d'habitude, qui dis « Ah ouais, ta barouette, qu'on les fasse, les projets. Comment ça, t'es sur le frein? Vas-y. » Fait que là, vous m'avez convaincu. On y va.
Ben, écoute, hein, ça sera pas parfait, là. Puis Pascal, en manchette, faisait référence à des gens qui lèvent le drapeau. Une transformation numérique comme celle-là, ça sera pas confortable, ce sera pas parfait. Là, l'autre élément qui s'est ajouté cette semaine, c'est qu'il y a une enquête de l'Autorité des marchés publics. Ça, c'est l'organe gouvernemental indépendant qui est responsable de surveiller l'octroi des contrats gouvernementaux. Donc, est-ce qu'il y aurait eu une irrégularité dans le deuxième appel d'offres? L'AMP va enquêter là-dessus et je pense que c'est bien correct. On a des organes de surveillance comme ça au Québec, Vérificateur général, Autorité des marchés publics, Autorité des marchés financiers, l'UPAC. Servons-nous-en. Donc, c'est bien correct. Ça faisait une petite victoire politique aussi pour Monsef Deragy qui demandait cette enquête-là, effectivement. Puis Monsef Deragy qui est connu pour être très vocal sur ce genre de projet-là, il a fait un travail extraordinaire dans le dossier de Saclic. Donc, tantôt, tu nommais toutes les gens qui t'ont convaincu. Je pense aussi que tu avais été au départ là, un peu convaincu par Monsef Deragy, parce que c'est vrai que c'est un communicateur efficace et qu'on est frileux parce qu'on a vu des fiascos par le passé. Hey, je pense que c'est normal qu'on soit un peu traumatisé.
Puis on était traumatisé à la SAAQ. Alors là, c'est en santé. C'est sûr qu'on est un peu plus sur nos gardes.
C'est nos données médicales, évidemment, que c'est inquiétant. Et aussi, c'est que c'est un réseau qui est pas mal plus compliqué que celui de la SAAQ. Bon, la SAAQ, c'est quand même gros, là, faut le dire. On a beaucoup de conducteurs au Québec. Mais cela dit, le système de santé, c'est un mammouth. Et ce mammouth-là est pas dur, est pas facile à faire bouger.
Mais là, t'es-tu en train de me dire qu'on va avoir Monsef Deragy demain en entrevue aux alentours de 12h50 pour me parler justement de l'Autorité des marchés publics? Là, t'es-tu en train de me dire que demain, je vais être contre le lancement de samedi ou je vais être correct?
Ben écoute, tu décideras de ta propre opinion, mon cher Jeff, mais tu sais, à un moment donné, dans la vie aussi, c'est des balances d'inconvénients. Ce sera pas parfait, puis il faut aussi se rappeler qui joue quel rôle dans la grande pièce de théâtre politique. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai travaillé dans l'opposition pendant de nombreuses années. Quand tu es dans l'opposition, là, tu fesses dans le tas, tu critiques. C'est pas ton rôle de trouver des façons de faire la transformation numérique nécessairement. Bon, il faut que les oppositions soient constructives, qu'ils proposent des choses. Ils jouent son rôle. C'est aussi très utile en démocratie d'avoir des oppositions qui challengent le gouvernement. Mais je voudrais quand même qu'on garde en tête l'objectif de ce projet de transformation numérique. C'est pas évident, là, mais il faut arrêter d'utiliser le fax, puis le papier, puis le téléphone quand c'est pas nécessaire. Il faut moderniser notre système de santé. Puis Marois Risky le disait ce matin en entrevue, je l'ai écouté votre entrevue avec Marois Risky, et elle disait, c'est sûr que quand tu es un patient puis que tu te dis, oh, OK, je vais avoir des délais, il va y avoir des petits bugs alors que moi, je suis malade en ce moment, hey, j'ai de l'empathie fois 1000. Mais il faut regarder le gain en efficacité aussi sur le long terme. On le sait, c'est désagréable changer de système, là. C'est pas évident. Puis Thomas Gerbet et les autres journalistes qui font un excellent travail vont trouver des gens, des témoignages, il va en avoir d'autres, là. Il faut être prêt à ça. Mais écoute, Jeff, je suis contente de voir que tu es en train de te joindre aux gens qui disent « OK, ça va pas être agréable, mais il faut qu'on le fasse. »
Vous m'avez convaincu. 5 femmes m'ont convaincu. Val, si t'es à l'écoute, ça en prend 5 pour me convaincre.
Hey, Colin.
Attends, c'est une blague. Une blague.
Je suis sûr que tu fais tout ce que Val veut de toute façon.
Ouais,
c'est je essayer de nous faire croire le contraire.
Exactement, je suis pas mal.
Souvent, quand ils le disent, hein, c'est là où on sait qu'on a.
Oui,
en
c'est ça, vous avez tout compris. Hey, chérie, tu ferais ça? Oui, pas de problème.
Val,
c'est pas mal. C'est pas mal.
Val, il dit, t'es peut-être dû pour une petite coupe de cheveux. Une heure après, il est rasé comme un canin.
C'est pas mal mon tempérament. Hey, merci de réagir au 418-971-1021. Vous avez été plusieurs à dire, Jeff, t'as bien raison. Avoir et avançons avec le tramway. Surveillons, mais avançons. C'est le temps qu'on fasse de quoi en capitale nationale. Ben merci pour vos commentaires. T'as pensé quoi du discours de Christine Fréchette qui s'est présentée? Moi, c'est sans surprise, je trouve. Elle s'est présentée en mettant des priorités qu'on avait déjà entendues de l'avant. Elle veut être très efficace, c'est normal. Elle a 5 semaines pour prouver à la province en entier qu'elle pourrait être la prochaine première ministre après les élections du 2 octobre. Écoute, c'est un discours somme toute efficace. Moi, c'est le mot que j'ai en tête.
Oui, j'ai trouvé que c'était un discours qui était vraiment à sa couleur aussi.
Ouais.
Et c'est sûr que stratégiquement, Christine Fréchette essaie de prendre des distances par rapport à François Legault, on peut comprendre, mais au-delà de ça, au-delà de la stratégie politique, c'était un ton qui était différent. Elle avait invité beaucoup de gens dans les tribunes aussi du Salon Rouge. Je trouvais que ça mettait un visage sur des mesures, sur des politiques. Par exemple, il y avait un jeune couple qui avait acquis une propriété cette année. Puis elle disait, voici un couple qui va bénéficier du remboursement de la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs cette année. Il y avait un entrepreneur de Lillet qui a dû diversifier ses marchés à la suite de la crise des tarifs avec les États-Unis. Donc, elle avait, je trouvais que c'est une bonne stratégie de communication d'humaniser un petit peu les politiques. Elle a passé aussi une partie de son discours au début à parler des femmes qui brisent les plafonds de verre. Elle a parlé beaucoup de d'autres femmes. Et je me disais, ah, tu sais, c'est pas un discours qui est « je me moi ». Elle faisait de la place à d'autres personnes. Elle a notamment salué Sophie Thibault, des politiciennes qui ont été les premières à emprunter certains sentiers. J'ai trouvé ça intéressant et différent de ce qu'on avait entendu des derniers premiers ministres du Québec. Sur les priorités, on voit un petit changement aussi. C'est que les priorités de François Legault, c'était économie, santé, éducation, identité et environnement. Ça faisait toujours un peu sourciller les écologistes. Là, on est sur des choses plus transversales un peu, mais très près des enjeux actuels, à mon humble avis, c'est-à-dire service public. On le sait qu'on a un enjeu de service, pas la santé ou l'éducation. On a un défi de service public. Infrastructure, énorme défi. Infrastructure vieillissante partout au Québec, puis on n'a pas d'argent. Fait que là, il faut trouver des solutions. Aussi, la question du coût de la vie. Parce que l'économie, oui, c'est une autre priorité, mais le coût de la vie, c'est notre portefeuille, puis la macroéconomie, c'est pas exactement la même chose.
En effet.
Je pense que c'est la préoccupation numéro un de tout le monde en ce moment. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait des petites différences comme ça qui étaient intéressantes, mais en même temps, on n'était pas incohérent avec le passé de la CAQ. Donc, elle avait bien dosé. C'est un jeu d'équilibriste. Elle l'a bien fait. Maintenant, est-ce que ça révolutionne tout, puis est-ce qu'elle va pogner 25% de points dans les sondages demain matin? Pas nécessairement, mais je pense que c'est une opération qui était somme toute réussie pour elle.
Ce matin, c'était sa première période des questions, puis okay, on a appris qu'elle savait boxer. Je vous laisse entendre cet extrait avec Paul Saint-Pierre Plamondon.
Moi, je demande plutôt aux Québécois de faire appel à leur mémoire. Le bilan de la CAQ est déjà écrit, c'est celui de la première ministre. Est-ce qu'elle nie ce bilan qui est aussi le sien? Est-ce qu'elle est prête à prendre ses responsabilités?
La réponse de la première ministre.
Merci, Madame la Présidente. Je suis contente de voir que le collègue chef du troisième groupe de l'opposition se lève aujourd'hui, alors qu'il n'a pas daigné le faire hier, quand il était question de protéger les femmes de la violence conjugale.
Qu'est-ce que c'est passé là? Est-ce que c'est démagogue? Oublié de se lever?
En fait, hier, Paul Saint-Pierre Plamondon avait décidé de ne pas applaudir autrement qu'au début. Là, okay? Parce qu'il faut le dire, les applaudissements à l'Assemblée nationale, bon, ils ont été bannis pendant les périodes de questions, parce que premièrement, on perdait un temps fou, puis le gouvernement faisait exprès pour que ça prenne du temps pour avoir moins de questions. Mais pendant les discours, c'est encore présent. Et hier, on aurait tous gagné 30 minutes de notre journée en passant s'il y avait un petit peu moins d'applaudissements. Mais bon, ça, c'est mon éditorial de filles pressées. PSPP, c'est pas contre les femmes là, qui n'ont pas applaudi. C'est tout simplement qu'il avait pris cette décision-là de ne pas applaudir à chaque fois que le gouvernement, son adversaire politique, allait proposer quelque chose. Je pense qu'il aurait peut-être pu faire preuve d'un peu de flexibilité et de gros bon sens en entendant cette affaire-là sur la loi de Claire et les féminicides, parce que, évidemment, ça faisait un petit peu étrange, mais vous connaissez un petit peu le chef du PQ, il applique certains principes et il garde ces principes-là jusqu'au bout. J'ajoute aussi que, pendant le discours de Mme Fréchette, il y a un libéral, je ne sais pas qui, je n'étais pas en chambre, qui a interrompu le discours à un moment donné, parce que quand Mme Fréchette parlait des femmes qui ont brisé des plafonds de verre, il y a un libéral qui trouvait que dans la liste, il aurait dû avoir Claire Cosgrain-Kirkland, première députée, qui est une députée libérale.
Ouais, là, à un moment donné, on ne peut pas mettre tout le monde.
Ben, interromps pas la première ministre pendant qu'elle parle. Hey, après ça, tu pourrais le dire sur Twitter, tu peux en parler en scrum en après.
Je reviens sur PSPP parce que c'est peut-être moi, mais je trouve ça majeur. Et je te fais entendre Marois Risky ce matin, justement, quand on lui a demandé c'était quoi le moment fort du discours de Christine Fréchette? Elle était sur nos ondes dans Marceau le matin.
Dans tout ce que j'ai entendu hier dans le discours, le moment pour moi qui a été le plus important, c'est lorsqu'on a parlé de la loi Gaby Renault et que dans nos tribunes, on avait la sœur Rachel. Mm-hmm. Très émue. Et la première ministre, Mme Fréchette, se tourne vers elle et lui dit de façon très affirmative, nous allons l'adopter. Et là, les élus, nous nous levons. On applaudit tous et on se tourne vers Rachel.
T'as un moment fort en émotion. Et voici ce que PSPP a répondu aux journalistes ce matin.
La première ministre vient d'inférer qu'on était contre la protection des femmes, basée sur le fait qu'on se lève ou non dans un discours, alors qu'on se lève jamais dans le discours de la première ministre. C'était le cas pour M. Legault. Donc, on est devant de la base politique qui n'est pas honnête sur le plan intellectuel. Puis moi, tant que les gens ont compris que notre soutien pour la protection des femmes et la prévention des féminicides, elle a toujours été là, puis il est entier.
Je suis complètement en désaccord avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Tu te présentes pour être premier ministre, je m'attends à ce que tu aies du jugement. Et le jugement que tu aurais dû avoir, c'est aller à l'encontre de ta petite règle que tu t'es donnée de ne pas te lever, puis
c'est
de
ça.
Saisir le moment, puis de dire « Hey! » C'est sûrement un des moments forts dans l'histoire de Québec pour contrer la violence envers les femmes. Mais moi, parce que je fais mon petit anant qui dit « j'applaudirai pas puis je me lèverai pas pour Christine Fréchette, je me lève pas pour ça », c'est épouvantable pour moi ce qui a été fait.
Ben c'est ça. En fait, tu l'as bien dit, c'est « sans le moment ». Ressent autour
exactement.
De toi ce qui se passe.
Size donc, la chambre, là, the room, là, size the room.
Ben c'est ça, puis c'est un peu rigide, en fait. Il fait preuve de rigidité. Puis on le sait que ça fait un peu partie de son tempérament de chef, en tout cas de ce qu'on voit. Là, on ne le connaît pas nécessairement dans la vie de tous les jours, comment il est en dehors de la vie politique, mais c'est comme j'ai raison, puis là, c'est un principe, là, ça, c'est mon principe, mais... Comme tu dis, « fill the room », la sœur de Gaby Renault qui était dans les tribunes, je pense qu'il aurait pu faire une petite exception à cette règle qui s'est donnée. Maintenant, de dire, que la CAQ va dire qu'ils sont contre les femmes, à un moment donné.
Mais ça, c'est démagogue.
Clairement, c'est pas ça que ça voulait dire.
Non, ça, c'est démagogue. Là.
C'est ça. Ah, c'est la joute politique, on aime ça.
En effet, on m'a dit « read the room » et puis continuez à réagir. Là, justement, vous êtes plusieurs à avoir réagi sur DSN et sur le tramway. On fera là, un petit suivi là, à la suite du caucus. Ça, c'est très intéressant de vous... La clause dérogatoire, Haroun Bouazizi, toi, qui a proposé quoi? Que c'est pas grave si on se fait arrêter nos lois canadiennes? Là, j'ai pas trop compris cette histoire-là. Là.
Ben, en fait, c'est qu'il y a un débat en ce moment qui est d'ailleurs devant la Cour suprême du Canada sur l'usage de la clause dérogatoire. Il y a des gens qui trouvent qu'au Québec, on abuse de déroger à la Charte des droits et libertés canadienne. On peut aussi déroger à la Charte québécoise en passant, mais là, ça, c'est un peu complexe, fait que je vous épargne tous les détails techniques. Mais il y a vraiment des gens qui trouvent que la Charte est là pour nous protéger. et pour nous protéger un peu contre nos politiciens et contre les lois qui pourraient être abusives. Parce que dans le fond, quand on déroge à la Charte des droits, c'est que, ben, en quelque sorte, on dit « bon, ben ma loi, elle va affecter les droits individuels de certaines personnes ». Souvent, c'est justifié par des droits plus collectifs. Hein. Au Québec, on a cette notion-là qui est un peu moins présente dans le reste du Canada. Et on va déroger à certains droits, notamment, des fois, le droit de religion. Quand on parle de la loi sur la laïcité, on a décidé comme société, on a élu un gouvernement qui considère que le droit à la religion s'arrête où le droit collectif à la laïcité commence. Et bon, tout ça fait l'objet de contestations dans les tribunaux. Et en ce moment, il n'y a pas seulement le Québec qui défend l'usage de cette clause dérogatoire pour pouvoir déroger à la Charte des droits. Il y a d'autres provinces canadiennes aussi qui disent, écoutez, ça, c'est une question d'autonomie des provinces et c'est ça le compromis fédéral. C'est nous, on n'a pas signé la Constitution du Québec, mais les autres provinces qui y ont adhéré, même s'ils sont d'accord avec la Constitution, disent, quand on légifère dans nos juridictions, on a le droit, ça fait partie du compromis fédéral, de déroger à la Charte des droits et libertés dans nos juridictions. Et là, QS arrive aujourd'hui et il reprend en fait une partie de l'argumentaire de l'avocat de la poursuite de la FAE face à la Cour suprême, justement, qui a plaidé qu'on était à risque de dérive autoritaire. C'était ça. Imaginez qu'un Trump arrive au Québec, il faut qu'on limite l'usage de la clause dérogatoire pour protéger les droits des gens. Honnêtement, le Québec qui demande à Ottawa moins de pouvoir,
C'est comme... Ben c'est ça, ça ne fonctionne pas pantoute. Là, Québec solidaire est un parti souverainiste, oui. Mais là, on va s'enlever des pouvoirs.
Mais c'est comme un peu, tu sais, si QS s'était dit, bon, là, on ne gagnera pas les élections, on ne sera pas au pouvoir, donc on va essayer de limiter le pouvoir des méchants partis de droite qui nous gouvernent depuis les dernières années. Est-ce qu'il peut avoir une discussion, tu sais, je pense qu'on peut avoir des discussions saines sur le partage des pouvoirs dans une société, parce que c'est-tu au tribunal de trancher certaines choses, oui, non, est-ce qu'un gouvernement qui est élu, pas par la majorité des gens, mais a tous les droits, tous les pouvoirs, bon, il n'y a pas de problème. Mais de dire, on va limiter l'usage de la clause dérogatoire, c'est vraiment comme affaiblir le Québec et limiter sa possibilité d'agir dans ses juridictions. Puis ça, c'est sur le fond des choses. Maintenant, sur la forme, veux-tu bien me dire qu'est-ce que QS a gagné à 5 mois des élections à aller gossailler sur des affaires de clause dérogatoire?
Avec un député qui ne se représentera même pas.
Mais beaucoup de
avec un député qui ne se représente pas et qui, faut le dire, là, pas une grosse cote d'amour là, depuis ses propos sur ses collègues à l'Assemblée nationale, quand il avait dit que l'Assemblée nationale, c'était raciste et qu'il vivait du racisme à tous les jours à l'Assemblée nationale. Donc, honnêtement, c'est quoi la stratégie politique, là?
Bien, beaucoup critiquent ça en disant qu'ils ne se penchent pas sur les bons enjeux, les vrais enjeux, les enjeux forts. Puis je pense qu'on avait parlé même avec toi dans le caucus, mais mettons cet automne, là, puis ça perdure ça. On dirait que c'est-tu pour être différent, pour essayer d'attirer l'attention?
Non, c'est qu'ils ont un petit côté aussi j'ai raison, donc il faut que je fasse. Okay? En politique, c'est correct là, d'avoir raison dans leur esprit. Sur le fond, je ne suis pas d'accord avec eux, mais eux, dans leur tête, ils ont raison, ils protègent les droits des gens, donc il faut y aller. Ça n'a aucun avantage politique en ce moment d'aller faire ça. Hier, Christine Fréchette a fait un cadeau à QS. Parce qu'elle a parlé d'une économie de propriétaire, puis que les gens, il fallait qu'ils accèdent à la propriété. Elle n'a jamais parlé des locataires. Bien, ça, c'est l'électorat de QS. C'est un électorat dans lequel il y a encore de la place pour de la croissance. Parler de crise du logement. Parler d'environnement. Il n'y a plus un parti qui parle d'environnement. Je m'excuse, mais la crise climatique, ça existe encore. Bon, QS n'a pas toujours été pragmatique dans son approche, mais il y a quand même un terrain à occuper. Là. Ça inquiète quand même une génération de gens, là, ce qui se passe au niveau environnemental. Le coût de la vie, on en parlait. Pouvez-vous focusser, s'il vous plaît, sur des enjeux qui sont les vôtres, qui sont des terrains à occuper, puis qui intéressent le monde? Tu sais, l'encadrement de la clause dérogatoire, je ne dis pas que ce n'est pas important, là, mais je veux dire, on est en pré-élection. Là. Come on!
Je termine ce caucus avec justement une parole d'Éric par texto qui dit, ben c'est aussi simple que ça. QS s'acharne à demeurer dans le champ gauche. Antonine Iaccarini, c'est très apprécié. Le caucus du lundi au jeudi de midi à midi et demi. On se reparle demain. La semaine prochaine, tu seras de retour en studio.
Oui, j'ai très hâte.
On a hâte de te voir, nous autres aussi. On s'ennuie même si on se parle par Zoom. Salut!
Oui, bye.
Salut! Antonine Iaccarini qui fait entendre sur nos ondes. à chaque lundi au jeudi de midi à 12h30 dans le caucus sur les ondes de Boulevard 101 dans l'émission On en jase. Elle fait également des chroniques dans Gravel, dans Le Retour, comme elle a fait hier. Pascal, on se fait un petit tour d'actualité après la pause.
Sa faute.
Alex Laramé va venir s'installer. On va parler Canadien Sabre qui commence ce soir. Hé, hey, t'es excité?
Honnêtement, vous commencez à m'embarquer.
Ah, oui.
Mais par le fait que vous remplissez tout les restaurants de la ville.
J'ai tellement
hâte. Des rassemblements familiaux en pleine semaine.
Oui, je vais même m'entraîner à soir. Je vais aller chercher deux petits Big Mac, un pour moi, un pour mon Edou qui va avoir joué au foot.
Pour le Grand McDo.
Puis pour le Grand McDo, on s'assoit et on regarde le match. Ça va être extraordinaire. Et on va également avoir notre chroniqueuse économique, Lani Dufour, qui va venir s'installer en studio avec nous. On va parler de deux sujets très intéressants, à mon avis, avec Lani. Premièrement, une grosse annonce en termes d'aviation. Donc, on va annoncer plus de 150 avions à l'usine Bombardier à Mirabel. Ça va se faire cet après-midi avec Mark Carney et Christine Fréchette. Et également, Samuel Poulain, ministre des Affaires municipales, qui a dit « Hey, savez-vous quoi? L'avenir passerait par les maisons préfabriquées. » Je vais entendre Lani là-dessus. C'est une bonne idée, c'est une moins bonne idée. Elle va nous jaser de ceci après la courte pause à Boulevard 101. On en jase.